Merci à ceux qui nous rejoignent actuellement dans ce culte. Merci aux enfants pour ce qu'ils ont préparé dimanche. Et aujourd'hui, on voudrait leur préparer aussi des paroles. Je dois être ce matin pastoral, proche des agneaux, proche des brebis. Je dois être proche de vous pour vous encourager avec des mots que vous connaissez, mais les mots connus ne sont pas forcément désuets, vieillots. Quand une femme dit à son mari « je t'aime », un mari dit à sa femme « je t'aime », c'est jamais vieillot, c'est jamais dépassé. Alors, je ne vais pas faire de lecture puisqu'elle a été faite, bien faite, mais je vais simplement commenter cette lecture avec trois petits points, bref, accueillir, voilà, accueillir l'étoile, accueillir le Sauveur, accueillir la transformation. Par sa venue à Bethléem, Dieu s'est rapproché de l'être humain, de nous. Il veut s'approcher de nous. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne veut pas être lointain, mais un prochain. Il veut que se tenir au milieu de son humanité, son peuple. Quand Dieu est au milieu de nous, tous ceux qui l'entourent sont des proches, des prochains. Tous ceux qui l'entourent sont des frères et des sœurs. Il s'approche aujourd'hui, malgré les encombrements. Vous avez vu qu'à Bethléem, c'était l'encombrement quand même. Il n'y avait même pas de place pour une nouvelle accouchée et un enfant. Il s'approche, malgré votre maladie, malgré la solitude où rien ne bouge, malgré nos pauvreté qui parfois nous dévalorise devant les autres. Je ne suis pas comme les autres, voilà. Mais Dieu a choisi les choses faibles, les choses pauvres. Il nous a choisis pauvres pour que nous devenions riches, d'une richesse que le monde ne peut pas nous donner, riche en Dieu. On dit « Jésus était une faible plante, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. » Mais hier soir, je me suis dit « La faible plante, sans beauté, sans éclat, c'est aussi nous. On est peu de choses. » Mais rien ne repousse la venue de Jésus. Rien ne repousse le Seigneur, ni la misère, ni le péché même. Et rien ne doit nous décourager dans notre marche. Accueillons le Seigneur. La première chose sur le mot accueillir, c'est accueillir l'étoile. Il a mis une étoile dans le ciel, un astre qui sortait d'Israël, et Dieu savait que son étoile allait attirer pas la foule, pas des stades, quelques personnes, des mages, pris au piège. Il prend au piège les sages, dans leurs calculs savants. Voilà qu'ils se sont mis en route vers cette étoile, pas comme les autres, et qui, je vous l'avoue, m'intrigue. Une étoile qui bouge, qui s'arrête sur une maison. Et les mages ont compris que cette étoile, ce n'était pas elle le plus important. En arrivant à Bethléem, ils ont dit « Nous sommes venus l'adorer, pas l'étoile, Jésus, le Dieu fait homme. » Alors ils ont mis de côté leurs livres de science, leurs calculs, parce que pour ces mages, ces savants qui étudiaient la marche des étoiles, c'était plus que de l'astronomie, c'était Dieu qui nous visitait, un Dieu qu'il fallait adorer, servir, se donner. L'étoile marche devant eux. J'ai jamais compris ça. Je ne suis pas savant. Hein. L'étoile marche devant eux, elle brille et elle s'arrête sur la maison où était l'enfant. Je vois des étoiles dans le ciel quand je sors un peu de Rennes, la nuit. Mais je ne peux pas vous dire que l'étoile est sur ma maison ou sur la vôtre. Elle est un peu sur toutes les maisons. Elle est un peu partout. Elle brille sur tout le monde. Et je me suis dit, sur quelle chose de votre vie voudriez-vous que la lumière de Dieu se porte ? Sur quelle chose de votre vie voulez-vous que, peut-être pas l'étoile, là, la lumière de Dieu se pose ? Sur un enfant malade, peut-être, oui. Sur votre famille ? Ou sur votre travail que vous avez ou que vous n'avez pas, sur vos projets, je suis sûr. Vous voudriez que cette lumière se pose sur votre santé qui vous inquiète, peut-être sur un péché qu'il faut arracher de votre cœur et vous avez de la peine à l'arracher. Peut-être que la lumière de Dieu pourrait se poser sur une page de la Bible que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez plus, sur votre marche passée assurée avec Jésus, sur un choix de vie. Ta parole est une lampe, est une flamme à mes pieds, dit le psaume 119. C'est-à-dire ta parole, si elle est à mes pieds, elle bouge, parce que mes pieds n'arrêtent pas de bouger. Ça veut dire que la lumière de Dieu nous suit, la lumière de Dieu nous précède, marche avec nous. Bon, c'est mon premier point. Accueillir l'étoile, mais accueillir surtout Jésus. Et là, je retrouve Marie et Joseph qui frappent à la porte de l'hôtellerie. Avez-vous une place entre vos troupeaux et tous ceux qui sont venus pour le recensement, pour une jeune accouchée? Elle va accoucher d'ici une heure. Marie, il frappe à notre porte. L'entendons-nous? Pas le frappement, sa voix. Jésus dit, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix. Pas le frappement, ma voix. Ce qui veut dire qu'il frappe, mais il parle. À travers ce qu'il fait, il nous parle toujours. Savons-nous le reconnaître ? Il nous appelle ce matin, il nous appelle chaque jour par notre nom. Y a-t-il une place pour cet inconnu qui vient vers nous aujourd'hui ? Il s'est fait homme pour que nous ne soyons pas effrayés par sa gloire. Il s'est diminué, il s'est rendu faible. Il s'est rendu fragile et nous l'avons méprisé. Le manque de place dans l'hôtellerie, mais le manque de place en général, c'est un message fort des évangiles. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas seulement Israël, c'est le monde. Nous ne l'avons pas reçu. Avons-nous de la place pour Dieu quand il veut entrer chez nous ? De la place, ça veut dire quoi ? Avons-nous du temps à lui donner ? Avons-nous de l'espace dans notre cœur ? C'est là qu'il veut être. Avons-nous du temps et de l'espace pour Dieu et pour les frères et sœurs qui accompagnent Dieu ? Nous savons gagner du temps maintenant, nous prenons des trains qui partent, qui partent pas, mais enfin, on gagne du temps quand même pour aller à Paris. Hein. Nous savons gagner du temps avec des machines, des ordinateurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais gagné autant de temps et jamais nous n'avons eu si peu de temps à disposition pour les autres. J'ai pas le temps. Pourtant, notre temps, il a été racheté, c'est-à-dire délivré pour être consacré à Dieu. Quand je dis « je te donne ma vie », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « je te donne mon petit cœur ». Mais ça veut dire aussi « je te donne tout mon temps ». Tout le temps que tu me donneras sur la terre, je le mets pour toi. Alors, Dieu a-t-il vraiment une place dans notre pensée ? Parce que donner son cœur à Jésus, ça veut dire aussi penser à lui, l'aimer de toutes nos pensées, avec tout ce que l'on pense, avec tout ce qui est dans nos pensées. Mais voilà, nos pensées sont organisées, occupées, façonnées par l'esprit du monde. Nos pensées sont préfabriquées par le diable qui manipule l'esprit du monde, pour que, au fond, Dieu n'ait pas d'importance. Au fond, Dieu n'existe pas en nous, qu'il n'ait pas sa place en nous, qu'il soit partout, mais pas en nous. Jésus frappe à la porte de notre cœur, mais souvent, nous avons des raisonnements qui ne le laissent pas entrer. Nous commettons des péchés qui empêche la venue de Jésus. Il frappe à notre porte, mais notre pensée, préfabriquée, façonnée par le monde, a rendu ses paroles superflues. Bon, ça sert à quoi ? On a l'impression que rien ne rentre en nous parce que tout est occupé par l'esprit du monde. Ce que nous voulons, nous, c'est la réussite de nos projets. C'est être rempli de nous-mêmes, se satisfaire de notre personne, à un tel point qu'il ne reste pas de place pour le Dieu de l'univers, le Seigneur qui est venu nous habiter. Et quand on n'a pas de place pour Dieu, on n'a plus de place pour le monde, pour les frères et sœurs, pour les autres, pour les enfants, pour les pauvres, pour les étrangers. Plus de place. À Manille, aux Philippines, où il y a à peu près 6 millions de pauvres, à Manille, aux Philippines, il y a un grand tas d'ordures, un dépotoir immense, une montagne. Et sur ce tas d'ordures, il y a des milliers de gens qui vivent. Ils sont nés là. Ils cherchent leur nourriture là chaque jour. Ils mourront là, ils feront des enfants là, sur ce tas d'ordures de Manille aux Philippines. Ils ne connaissent rien d'autre dans le monde. Ils ne connaissent pas les montagnes, la mer, même la ville de Manille, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent que leur tas d'ordures. Et sur ce tas d'ordures, immense comme une montagne, il y a des Américains qui vivent là. Étonnant. Des missionnaires américains qui ont voulu s'approcher de ces pauvres, parmi les pauvres, pour leur faire entendre le message de Jésus. Être avec eux, être avec ceux qui n'ont pas de place dans le monde, être avec ceux qui n'ont pas de voix, être avec ceux qui n'ont pas de joie. C'est Noël aujourd'hui, pour tout le monde. C'est une nouvelle. C'est plus qu'une fête, c'est chaque jour. C'est une nouvelle pour tous ceux qui n'ont plus rien. Enfin, je vais terminer. Accueillir la transformation. Jésus est vraiment le plus grand mystère de transformation. On transforme l'eau en électricité, on transforme le vent en électricité, on transforme aujourd'hui. Tout se transforme. La plus grande transformation, c'est Dieu qui est devenu un être humain, jusqu'à avoir faim, soif, jusqu'à avoir froid, jusqu'à pleurer. Et cette transformation, c'est le grand mystère de l'incarnation. Mais la deuxième transformation, c'est nous. Il nous transformera en nous rendant semblables au corps de sa gloire. Deuxième grande transformation. Mais aujourd'hui, un sauveur nous est né, je vais terminer là, pour nous libérer. Un sauveur. Ça veut dire quoi, sauveur ? Ça veut dire quoi, sauver ? Je crois qu'on ne sait plus très bien ce que signifient ces mots. On connaît le mot sauveteur, mais sauveur, c'est quoi ? Sauver veut dire libérer. Dieu nous a donné les 10 commandements pour nous libérer de la haine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous a donné les commandements, mais il nous libère aussi du mécontentement. Il nous apprend à vivre avec le meilleur, à voir le positif, sa présence en nous. C'est vrai que je suis dans la joie, pas une joie bête, pas une joie qui oublie les autres, mais dans la joie de ce que Jésus est en moi. Je ne suis pas dans la joie devant le tas d'ordures de Manille, mais je suis dans la joie de savoir que leur Seigneur est en moi et est en eux. Voilà. Je serai avec lui dans la détresse. Il sera peut-être dans la détresse, il y restera peut-être, mais je serai avec lui. Le Seigneur nous sauve de nos désirs de tout posséder, de tout maîtriser, d'avoir toujours raison, de tout comprendre. Il nous libère de nos peurs de ne pas faire assez bien, du sentiment d'être nul. Et tout le monde, un jour ou l'autre, s'est senti nul, même les enfants, quand ils échouent à un examen. Il nous libère de ce sentiment d'être nul ou d'être abandonné en nous disant « Je suis avec toi tous les jours. N'aie pas peur. Personne n'est nul vraiment. Et chaque jour, je pense que nous avons des cours de rattrapage. Le Seigneur nous apprend par sa parole à nous considérer comme des fils et des filles de Dieu. Nous avons des cours de soutien. Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Prends courage, lève-toi et marche, continue. Nous libérer aussi des jours difficiles, de la pression des jours difficiles qui s'annoncent sur le monde. Je ne sais pas demain ce qui va arriver. Je n'attends pas de très belles choses. Je ne sais pas comment nous allons sortir de toutes ces crises multipliées et qui s'aggravent. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Aurons-nous du travail? Mais l'Évangile nous libère, nous apprend à faire confiance. Chaque jour suffit sa peine. Et celui qui dit ça, ce n'est pas un pasteur. Enfin, c'est le pasteur des brebis, c'est le Seigneur, parce qu'il va prendre soin de nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Alors, ne vous inquiétez de rien, dit l'apôtre. Facile à dire. Mais si Jésus est avec nous, on a une charpente en nous. Il y a du vent, les maisons bougent, mais la charpente tient bon. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. La prière est le meilleur anti-stress. La prière, c'est un bon calmant. Ça nous apprend à regarder, à détourner nos regards de nous-mêmes pour les porter sur le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Je conclus. Chaque année, on pourrait le faire plusieurs fois dans l'année, nous revenons à cette nuit de Noël. Pour reprendre le langage de l'Ancien Testament, de l'Exode, cette nuit différente de toutes les nuits. Parce que la nuit de l'Exode, c'était la nuit de la libération. Et cette nuit de Noël, c'est une nuit différente de toutes les nuits, parce que en cette nuit, Dieu est devenu un homme sans cesser d'être Dieu. Je ne comprends pas. Dieu me montrera peut-être dans l'éternité ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, Dieu cherche à naître en nous. Il veut prendre sa place en nous. Ça risque de nous chambouler. Ça risque de nous remettre en question. Ça risque d'être bouleversé pour toujours. Mais quel bouleversement ! Le bouleversement de Pâques, le bouleversement de Noël, le bouleversement d'une vie nouvelle. Oh là là, Seigneur, merci. Amen. Merci pour ta présence ce matin. Nous allons prier le Seigneur et je vous souhaite, je le ferai à la fin, à la sortie, je vous souhaite un joyeux Noël, c'est-à-dire un accueil du Seigneur dans votre pensée, dans votre temps. Ne gaspillez pas votre temps en ne vivant que pour les choses passagères. Occupez votre temps avec les choses éternelles. Nous prions le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, tu t'es souvenu de tes promesses. Tu t'es souvenu de ta miséricorde que tu avais proclamée à Abraham, à Moïse, à David. Tu t'es souvenu de nous. Nous étions loin et tu t'es rapproché. Tu as fait briller ta lumière sur notre vie. Seigneur, tu as commencé une transformation en nous pour que nous devenions un jour, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, nous devenions un jour des enfants de Dieu à son image, comme lui, à sa ressemblance. Merci pour ce culte avec toi, ce culte avec les frères, avec les sœurs, avec les enfants, avec nos malades, nos âgés. Merci Seigneur. Amen.